Donc, j'ai choisi, mais on peut s'arrêter quand on veut maintenant, quatre exemples de modifications du cycle du carbone qui se sont traduites par des modifications du climat mondial. C'est des exemples. Alors, le premier exemple, c'est les variations actuelles. Tout le monde connaît la courbe des températures depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui, la courbe du CO2, il y a peut-être une relation, enfin, on ne peut pas prouver qu'il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui fait que le CO2 augmente? Mais il y a quatre grandes causes d'augmentation du CO2, enfin des gaz à effet de serre. La première cause, c'est le métamorphisme. Comment l'homme, entre guillemets, augmente le métamorphisme? C'est un peu un biais, c'est en faisant du ciment. Le ciment, c'est une réaction métamorphique. Et à chaque fois que vous achetez une petite maison un peu loin de Lyon, ou que vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous achetez votre maison parce que c'est la nature, c'est bien pour les enfants. La quantité de ciment pour faire une maison individuelle par tête de pipe est beaucoup plus grande que la quantité de ciment dans un immeuble. Donc tous les gens qui habitent à la campagne dans une petite maison en ciment sont de très très mauvais écologistes parce que non seulement ils prennent leur voiture pour aller travailler, mais ils ont pris beaucoup beaucoup de ciment pour faire leur maison. Il faut bien mieux habiter dans des HLM avec des comparois très très minces sans beaucoup de ciment. Sauf que s'il n'y a pas beaucoup de ciment, il fait très froid, il faut chauffer, donc pas toujours facile de trouver la bonne solution. Mais cette solution est mauvaise, ça c'est sûr. Essayez de faire votre maison en pierre de taille. Vous n'y arriverez plus, c'est plus possible. Ou alors à des prix en bois. On peut faire en bois. Mais s'il faut en bois ignifugé, quand même pour des raisons de sécurité, les machins ignifugés, c'est pas très bon. Hein. C'est hormonomimétique. Il n'y a pas de vraiment bonne solution. Alors le deuxième machin qu'on perturbe actuellement, c'est la transformation de la biomasse en méthane. Et ça, les responsables sont les vaches, enfin les ruminants et les rizières. Tous les marécages, naturels ou artificiels, font des fermentations qui font du méthane, et des rizières sont des marécages, et tous les ruminants rotent du méthane. Donc pour lutter contre l'effet de serre, mangez du cochon, mangez du poulet, mais ne mangez pas de mouton, ne mangez pas de bœuf. Je dis souvent en rigolant que je ne sais pas si Dieu existe, mais si Dieu existe, il n'a pas pu interdire le cochon. Parce que c'est favoriser l'effet de serre, et Dieu n'a certainement pas voulu favoriser l'effet de serre. Moïse et Mahomet n'ont pas dû bien comprendre ce que disait Dieu. Troisième chose, c'est l'augmentation de la respiration, de la décomposition de la biomasse. Ça, c'est la déforestation. Alors, les méchants brésiliens, en oubliant que les Français ont fait la même chose il y a 1000 ans, les moines défricheurs, vous vous rappelez. Mais il n'y a pas que la déforestation. Il y a les labours profonds, qui oxydent complètement la matière organique des sols. Sans compter que dans les labours profonds, souvent, on met des engrais, qui sont des oxydants. Donc, vous oxydez encore plus la matière organique profonde. En fait, la politique agricole commune et la FNSEA en général sont des très grands ennemis du climat à cause de nos pratiques agricoles, qui sont catastrophiques. Et le dernier truc auquel tout le monde pense, c'est l'oxydation de la matière organique fossile pour faire de l'électricité, sauf en France, où grâce à notre cher nucléaire, on n'en fait pas beaucoup, l'industrie, l'habitat et les transports. Et là, j'ai mis, pour simplifier, un camion qui vient de l'aéroport de Roissy, qui a récupéré un conteneur de haricots verts frais venant du Kenya. Donc ça, faut dire, c'est pour le climat, c'est pas bon. Alors, cette consommation va pouvoir durer combien de temps? Alors, grosso modo, si on fait les calculs, on en a pour 2 à 3 siècles au rythme actuel. Et l'augmentation de température que ça va donner, c'est, si on brûle tout, en quelques siècles, 4 à X degrés de plus. X pourrait être très grand. Surtout s'il y a un emballement. Et n'oubliez pas qu'on dit qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés de plus. Et avec le pétrole et le charbon et le gaz qu'on connaît, il y a largement de quoi dépasser les 2 degrés. Donc, voilà le GIEC, la COP21 résumée en un dessin. Ça, c'est nous, petits garçons gourmands. Ça, c'est les réserves d'hydrocarbures, de charbon et tout ça. Et il y a un dilemme. Est-ce qu'on mange tout le magasin? On mange tout tant que c'est pas vide. Mais on va tomber très malade avant. Regardez déjà, là, le gars, là, il n'est pas... C'est la première solution. On est parti pour faire ça. Deuxième solution, on s'arrête de se goinfrer avant d'être malade. Mais on va se dire, quel dommage de laisser traîner de si bons chocolats dans le magasin. Il est là, le pétrole, le charbon, tout ça. Puis on en trouve du nouveau, le gaz de schiste. Et on ne va quand même pas laisser ça. Ça nous permet d'aller prendre un week-end à Marrakech. Ça permet aux actionnaires d'avoir des gros dividendes sérieux. Ça permet plein de choses. Donc, entre ces deux alternatives, je ne sais pas ce que la COP21 va choisir. J'ai peur qu'on choisisse le haut. Alors, deuxième cause de variation de cycle carbone, c'est les variations quaternaires, qu'on peut mettre en évidence avec la géochimie des forages, mais qu'on peut mettre en évidence en se promenant à Lyon, en voyant des blocs erratiques à la Croix-Rousse et un mammouth à Choulan, maintenant au musée des Confluences. Vous savez que le monde actuel, il est comme ça, mais il y a 20 000 ans, il était comme ça. Et en fait, ça passe, hein. Il faisait beaucoup plus froid il y a 20 000 ans que maintenant. Vous connaissez tous ces variations de température qui sont parfaitement parallèles aux variations du CO2 et aux variations du méthane, qui sont deux gaz à effet de serre. Donc la température varie comme le CO2. Vous connaissez ça très bien. Le problème, c'est que les variations de température commencent quelques siècles, quelques centimètres dans les carottes, avant les variations de CO2. Ce n'est pas le CO2 qui entraîne les variations de température, c'est les variations de température qui entraînent les variations de CO2. Alors, ces variations régulières ont le même rythme que les variations astronomiques, vous connaissez tout ça. Ces variations astronomiques, c'est la cause première, c'est ça qui déclenche. Mais ces variations astronomiques sont très très faibles, elles vont peut-être entraîner des variations de 0,5 degré, grand maximum, et non pas les 10 degrés d'écart entre glaciaire et interglaciaire. Et puis que vient faire le CO2 et le méthane dans tout ça? Eh bien, on a vu l'effet boule de neige. Si vous réchauffez un tout petit peu l'eau de mer, elle va dégazer du CO2. Dégazer du CO2, ça va augmenter l'effet de serre, et hop, le phénomène s'emballe. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez plein de rétroactions carbonées. Par exemple, l'action de la température sur la décomposition des sols. Plus il fait chaud, plus les sols se décomposent. Ça fait du CO2. Sur la production du méthane. Plus il fait chaud, plus ça fermente dans les marécages. Pareil, plus il fait chaud, plus vous déstabilisez les clatrates. Sur la stratification des eaux de mer, le profond est froid, le haut est chaud. Si le haut est plus chaud, le bas et le haut se mélangent moins, ou se mélangent plus s'il fait froid, et donc vous allez changer la productivité. Il y a plein d'amplificateurs carbonés, plus tous les amplificateurs non carbonés, comme l'albédo, etc. Et tout ça, c'est extrêmement difficile à modéliser. C'est pour ça que les gens disent 2 degrés, on est presque sûr qu'il n'y aura pas d'emballement. Et encore, après, on ne garantit plus rien. Peut-être qu'il ne se passera rien, mais peut-être qu'il se passera. Et ce qui est très inquiétant, c'est que si on mobilise tout ce qui aurait dû se passer depuis 20 000 ans, 20 000 ans, on connaît la situation, on connaît le CO2, on connaît la température, on connaît tout. Et si on modélise ce qui a dû se passer, on trouve une augmentation de température deux fois plus faible qu'est-ce qu'elle était en vrai. On est passé de 10 à 14, quand on modélise, on devrait dû passer de 10 à 12. C'est-à-dire qu'on oublie plein de choses, mais on ne sait pas encore trop quoi. Mais c'est vraiment très inquiétant, parce qu'il y a des choses qu'on ne prend pas en compte. C'est pour ça que les gens disent 2 degrés, bon, mais pas plus. Dans quelques millions d'années, depuis quelques millions d'années, l'astronomie fonctionnelle signale. Le CO2 avait le rôle d'amplificateur. Et bien depuis 150 ans, le signal ne varie pas, mais l'homme augmente l'amplificateur. Et on a vu, il se passe ici qu'on augmente l'amplificateur, ça fait un effet de Larsen. Alors un effet de Larsen en audio, c'est pas beau, alors qu'est-ce que c'est un effet de Larsen en climato? Je sais pas, il vaudrait peut-être mieux éviter de faire l'expérience. Troisième variation, post 400 millions d'années, comment le climat a varié depuis 400 millions d'années? Dû à des variations du cycle du carbone. Si je me mets au début du Dévonien, vers 400 millions d'années, le climat était chaud. Au carbonifère terminal, le climat était froid. Ça surprend beaucoup de gens. Comment le climat froid au carbonifère? Mais c'est la forêt houillère, etc. C'est la forêt houillère en Europe, on était à l'équateur. Mais le climat mondial était froid, regardez les calottes polaires dessinées sur ce schéma. Et puis ça se réchauffe, là au début du Trias, il fait chaud, au Jurassique, il fait chaud, au Crétacé, il fait chaud, il n'y a aucun glacier, alors qu'il pourrait y en avoir, il y a des continents au pôle, il n'y a pas de glacier. Au milieu de l'Éocène, il fait chaud, ça commence à se refroidir au milieu du Miocène, là le dessinateur a mis de la glace en Antarctique, il en avait au Groenland, on ne voit pas très bien, moi j'ai enlevé, il en avait mis un peu, je l'ai enlevé. La glace au Groenland commence il y a 6 millions d'années. Donc là, j'ai un peu corrigé le schéma de Scotez en mettant le Groenland en marron et en vert. Ça commence à refroidir, et puis maintenant, il fait plus ou moins froid. Alors, on sait reconstituer les températures moyennes mondiales, je ne vous dis pas comment, mais voilà en gros la moyenne des températures du monde. On sait reconstituer le CO2 mondial, je ne vous dis pas comment, mais on y arrive. Et si on met les choses en parallèle, eh bien on s'aperçoit que grosso modo, jusqu'au Dévonien, c'est relativement parallèle, la température en bas et le CO2 en haut. Ce n'est pas complètement indépendant. Ça veut dire qu'il doit y avoir une relation. Avant, on ne voit pas de relation. Il y a deux solutions, soit il n'y a pas de relation. La nature était très différente, parce qu'il n'y avait pas de couvert végétal. Soit les données sont suffisamment mauvaises pour qu'on se trompe, soit dans le CO2, soit dans les températures. Mais depuis 400 millions d'années, ça colle. Pas trop mal. Alors on peut proposer l'explication, pourquoi des fois le CO2 monte, par exemple il monte beaucoup à la limite Jurassique-Crétacé, il est très haut, ça correspond à un maximum de température, maintenant ou au Carbonifère, et il fait très froid, ça correspond à un minimum de température, et là, minimum de CO2, minimum de CO2, maximum de CO2, donc, qu'est-ce qui peut faire varier le CO2? Eh bien, par exemple, la baisse depuis, on va dire, le tertiaire, c'est la baisse de l'activité des dorsales, et c'est l'altération de la chaîne alpino-himalayenne, gigantesque pompe. Au milieu du mésozoïque, forte activité des dorsales. Au carbonifère, le minimum température et CO2 du carbonifère, deux causes. Il y a une gigantesque chaîne de montagnes qui s'est formée juste à l'équateur, donc altération maximum, c'est la chaîne hercynienne, qui a disparu du programme du CAPES récemment, ils l'ont remplacée par je ne sais pas quoi. On ne va quand même pas faire apprendre la chaîne hercynienne à des futurs professeurs, alors que c'est un élément majeur du climat mondial, c'est quand même pas exagéré. Et puis, d'autre part, à la même époque, c'est là où on dépose le maximum de charbon. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais beaucoup de gens disent, c'est peut-être vrai, qu'il y a eu un déphasage entre l'extension des végétaux ligneux, les arbres, et l'apparition des lignases efficaces. Il n'y a que les ascomycètes et les basidiomycètes qui dégradent très bien la lignine. Les autres champignons, les bactéries, ça ne la dégrade pas très bien. Donc là, les arbres auraient bien poussé, seraient morts, et ce serait très mal décomposé. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait beaucoup de charbon, et donc contrepartie, beaucoup d'oxygène, baisse du CO2, etc. Alors, on peut voir, j'ai parlé d'oxygène, justement, l'oxygène, qu'est-ce qu'il fait depuis 500 millions d'années? Il a toujours un pompe pareil, hein, avec deux pics. Un pic au carbonifère, où il monte à plus de 35%, et un pic à la limite jurassique-crétacé, où il monte à plus que maintenant. Maintenant, c'est 21%, c'est la ligne rouge. Alors, l'explication du carbonifère, on vient de la dire, la fabrication du charbon. Alors, on aurait pu s'en douter depuis longtemps, parce qu'on a, par exemple, des fossiles de libellules grands comme ça. Et pour qu'une libellule grande comme ça respire, avec un corps gros comme ça, il faut que l'oxygène rentre dans les trachées pour oxygéner les muscles. Or, d'après les fossiles, les trachées ne sont pas plus grosses. Donc, c'est des trachées aussi fines que maintenant. Et avec un oxygène à 21% dans l'atmosphère, eh ben, on n'arriverait pas à oxygéner l'intérieur du corps. Par contre, si on en a 35, ça marche. On avait toutes les données pour réfléchir à ça depuis le milieu, enfin 1850 quasiment, quand on a trouvé ces libellules géantes. La dynamique des gaz dans les tuyaux, la physique classique devait être plus ou moins connue. Mais les physiciens ne parlaient pas aux biologistes, les biologistes ne parlaient pas aux géologues, les géologues ne parlaient pas aux biologistes, les biologistes ne parlaient pas, etc. Donc c'est resté, on aurait pu s'en rappeler. Alors on peut mettre ensemble les relations entre l'oxygène et le CO2. Alors là où c'est vert, c'est que c'est antiparallèle. C'est-à-dire qu'il y en a, quand il y en a qui monte, l'autre descend. À la louche. Si l'oxygène monte, ça veut dire qu'on fossilise de la matière organique. Si on fossilise de la matière organique, ben, ça fait baisser le CO2. Donc le couple photosynthèse-fossilisation de la matière organique a un rôle important dans les périodes vertes. Par contre, dans les périodes rouges, en particulier maintenant, le CO2 baisse, mais l'oxygène baisse aussi. Donc, c'est le CO2 baisse, c'est pas parce qu'on fossilise de la matière organique, parce que si on fossilisait de la matière organique, l'oxygène monterait. Donc, c'est qu'il y a autre chose que la bête couple, photosynthèse, fossilisation de matière organique. Voilà le genre de réflexion qu'il faudrait se faire. Alors, il y a des gens qui font... Alors, on peut se demander pourquoi, par exemple, l'oxygène monte au Jurassique et au Crétacé. Carbonifère, on l'a déjà vu. Il se trouve qu'au Jurassique Crétacé, les dorsales fonctionnent comme des folles. La mer est 300 mètres plus haut. Parce qu'une dorsale qui fonctionne beaucoup, ça prend plus de place. Donc plein de plateaux continentaux qui sont maintenant à plus 50, plus 100 mètres d'altitude, étaient à moins 50, moins 100 mètres sous le niveau de la mer. Et vachement loin de l'océan. Donc on avait plein de plateaux continentaux extrêmement loin de l'océan. Donc a priori, très mal brassés par les courants océaniques, puisqu'ils sont très loin. En plus, il faisait chaud, beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, donc photosynthèse très active. Donc phytoplancton énorme, mais océan bien stratifié, parce qu'il faisait très chaud en haut, l'eau chaude, elle reste en haut. Donc le plancton, quand il meurt, il descend, il arrive sur des eaux qui ne se mélangent pas avec les eaux de surface à cause du gradient de température, donc les eaux profondes sont mal oxygénées, donc le plancton n'est pas réoxydé, et ça fait du pétrole. Et donc le maximum, on va dire, Jurassique-Crétacé, c'était la contrepartie stoichiométrique des grands gisements de pétrole. Comme le maximum de l'oxygène carbonifère, c'est la contrepartie stoichiométrique du charbon. C'est une hypothèse raisonnable. Alors il y a des tas de gens qui travaillent dans ce sens-là, et là c'est les périodes où on dépose beaucoup de roches-mères pétroligènes, qu'on peut, avec de la paléontologie, estimer l'abondance du phytoplancton, estimer le niveau de la mer, et les gens essayent de corréler tout ça, pour savoir qui fait quoi, qui est cause de quoi, qui est conséquence de quoi. Alors on essaye de comparer, par exemple, là il y a 5 diagrammes, c'est l'activité des dorsales, le CO2, l'oxygène, les dépôts des charbons et le dépôt des provinces pétroligènes. et on essaye de comparer avec ça. Là, il aurait fallu rajouter l'altération continentale, une gigantesque pompe à CO2, mais qui n'était pas sur ce chapitre. Et dernier truc pour finir, la plus grosse crise du cycle du carbone, puisqu'on a failli en crever, mais nous sommes là à cause d'elle sans doute aussi, c'est les glaciations, la boule de neige néo-protérozoïque, qui a donné lieu à un article du dernier bulletin de la PBG, que je vous invite vivement à aller lire. Vous savez que vers 700 millions d'années, la Terre s'est entièrement englacée. Au moins deux fois, probablement trois fois de suite. Alors pourquoi? Ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est qu'il y avait un supercontinent, très gros, très massif, une Pangée, la Pangée qu'on appelle la Rodinia, et que sous cette Pangée, il est sorti des gigatrappes que le Dekkan ou la Sibérie sont des bébés à côté. Donc plein de gigatrappes, hein, toutes les trucs que vous avez là, c'est des gigatrappes. Beaucoup étaient loin, en particulier les plus gros, étaient loin de la mer. Donc dans les régions relativement sèches. Quand on est loin de la mer, en gros, on est sec. Et puis, vers 750 millions d'années, le supercontinent s'est disloqué. Et nos énormes masses de basalte qui étaient loin de la mer se sont retrouvées proches de la mer. Il a beaucoup plu. Et on a beaucoup altéré ces basaltes. Ce qu'on ne faisait pas avant. Et altérer du basalte, ça pompe le CO2. Et à force de pomper le CO2, il baisse. Et si on dépasse une certaine, par effet albédo, ça s'emballe. Et la Terre devient boule de neige. Alors n'importe quel physicien vous dira qu'une Terre boule de neige, c'est pour les siècles des siècles. Amen. Parce qu'elle est blanche, donc toute l'énergie repart. Et pourtant, on en est sorti. On en est sorti parce que quand c'était la boule de neige, tout le cycle du carbone, presque tout était figé. Il n'y avait quasiment plus de photosynthèse, quasiment plus rien, sauf le volcanisme. Et le CO2 est sorti, et il s'est même pas plus dissous dans l'eau qui était recouvert de glace. Enfin, le volcanisme aérien, en tout cas. Et c'est ça qui nous ferait sortir de la boule de neige. Alors là, je passe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la fin de cet épisode boule de neige correspond avec l'explosion des métazoaires, dont nous sommes les lointains descendants. Et Diacara, à ne pas confondre avec Burgess, c'est la fin du dernier épisode boule de neige. Et nous sommes sans doute, nous, métazoaires, les fils indirects des emballements du cycle du carbone qui s'est emballé vers le froid néoprotérozoïque. Et quand je pense que le cycle du carbone n'est plus vraiment au programme. Alors là, c'est la conclusion. Ben, je l'ai fait tout en voilà la conclusion. C'est qu'on est mal parti à court terme. Court terme, c'est quelques siècles et quelques millénaires. Mais qu'à long terme, la Terre, elle en a vu d'autres. Et que tous les gens, maintenant, on le dit, hein, c'est pas la planète qui va en chier, c'est nous. Nous et les écosystèmes. Donc, à long terme, c'est pas grave. Et le cycle du carbone va encore nous tuer. Nous, la vie. C'est parce que, grosso modo, le soleil augmente, toujours. Le CO2 baisse, toujours. Grosso modo, le CO2 est divisé par 10 tous les milliards d'années. Donc, depuis 4 milliards et demi d'années, vous vous rendez compte toute la baisse que ça a fait. Et l'un dans l'autre, ça compense quand même plus ou moins. On est à peu près toujours resté entre 0 et 100 degrés, sauf pendant les périodes de boule de neige. Mais ça va pouvoir continuer cette histoire-là, parce que le soleil monte, et le CO2 ne va plus pouvoir baisser, il n'y en a plus. 0,03%. Qu'est-ce que vous voulez baisser 0,03%? On ne peut plus. Donc, le soleil va monter, la température va monter, parce que l'effet de serre ne va pas pouvoir diminuer à cause de la baisse du CO2, et donc on va mourir de chaud d'ici à 2 milliards d'années. Et là, il va y avoir une amplification terrible, parce que quand il fera chaud, on va évaporer beaucoup d'eau. Si on évapore beaucoup d'eau, qui est un super gaz à effet de serre, ça va s'emballer, et d'ici 2 milliards d'années, la Terre ressemblera à Vénus. Et ça sera la fin de la vie, et c'est terrible. Voilà.